J'aimerais vous inviter à aller dans le premier livre des rois, au chapitre 19, au verset 1er. Premier livre des rois, chapitre 19, verset 1er. Le thème, la réflexion, la question que je me suis posée, et parfois à laquelle nous sommes confrontés, c'est comment nous relever. Alors ce message, il s'adresse à ceux qui ont besoin de relèvement, ceux qui ont peut-être chuté. Ce message s'adresse aussi à ceux qui sont fatigués, usés. Ce message s'adresse aussi à ceux qui, parfois, nous sommes confrontés à des chocs, des traumatismes, des difficultés, des épreuves. Et on a beau, par la grâce de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, mais il faut reconnaître qu'on est aussi des êtres humains. Et que parfois, il y a des chocs qui nous terrassent, ou qui voudraient nous terrasser. Et la question, et on va le voir au travers du témoignage d'Élie, la question c'est de savoir, mais quand je suis choqué, quand je suis écrasé, quand je suis à terre, comment faire pour me relever? Comment faire? Comment est-ce que Dieu me permettra de me remettre sur mes jambes? Est-il possible de repartir? Est-il possible de revenir dans le plan de Dieu? Et même si ma chute est due au péché, est-ce possible de m'approcher encore une fois de Dieu? Est-ce que c'est possible de devenir utile entre les mains de Dieu? Vous voyez toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors on va lire ce texte, ce témoignage, 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 1er. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, rends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » J'ouvre une parenthèse, c'est terrible. Hein, vous voyez, un homme de Dieu pourtant, un homme de feu, on le verra, un homme de miracle, comme quoi ça peut arriver à n'importe qui. Et puis au fond, eh bien Élie, c'est la démonstration qu'Élie était de la même nature que nous. La même nature que nous. Les mêmes combats, les mêmes difficultés. Alors comment faire? Alors, on va voir la suite. Hein. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. » Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Amen. » Voilà une histoire, comment dire, qui est terrible, qui nous montre au fond, mais moi j'aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vérité. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Et j'aime la parole de Dieu parce qu'on est loin, là, dans la parole de Dieu, du cinéma. Dans le cinéma, Hollywood et compagnie, parfois et souvent, même si ce n'est toujours, on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer. C'est-à-dire qu'on va nous montrer ou des super-héros lisses ou des malfaiteurs qui sont, on a l'impression, qui sont capables que de faire du mal. Mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. La Bible nous montre la vérité. Et lorsque nous voyons Élie, moi je ne vois pas un super-héros qui est lisse, mais je vois un homme avec toutes ses difficultés, toute sa complexité. Je vois un homme qui, comme, regardez le roi David, homme selon le cœur de Dieu. Mais pourtant, le roi David a été capable de commettre des infamies. Voyez, un homme complexe. Et puis vous et nous, est-ce que, enfin nous, vous, moi, est-ce qu'on n'est pas des gens compliqués? Est-ce qu'on n'est pas capable, là ce matin, on a chanté les louanges de Dieu, on bénit Dieu ensemble, oui, non? Et pourtant, qui sait ce qui va se dire dans les voitures tout à l'heure? Ou ce soir, dans la chambre couchée, qu'est-ce qui va se dire? Et soyez honnêtes, parfois on a loué le Seigneur quelques heures plus tôt, et puis après on est capable d'avoir des paroles de haine, des paroles de colère, des paroles où, oh, je ne dis pas, le contraire, comprenez bien, hein, dont on se repent, c'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire. On est capable du meilleur, on est capable d'acclamer Dieu, on est capable de dire, allez Seigneur, je me donne à toi. Et puis, quelques temps après, il suffit qu'un événement, quelque chose survient, et puis là, c'est la colère, et c'est tout le contraire. Et puis, c'est plus l'enfant de Dieu qui parle, l'impression que c'est un enfant charnel, comme un gamin qui pique sa colère, qui boude. Et puis, ben, au fond, Élie, regardez, on le voit, c'est un héros, enfin c'est un homme de Dieu, on va le voir avec ce qui se passe au chapitre 18, qui est juste, après juste avant le chapitre 19. Et le témoignage d'Élie, il est paradoxal, mais il n'est pas si rare que ça. Au fond, on est capable du meilleur et puis on est capable du pire. Ben ouais, on est bien obligé de reconnaître, c'est comme ça. Il y a en nous, et c'est ça, et la Bible le dit, il y a, comment dirais-je, il y a une opposition entre ce que les désirs de l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous pousse vers les choses de Dieu, la louange, l'adoration, la prière, l'intercession, la pureté, et puis les désirs de la chair qui sont là, oui ou non, ou il n'y a que moi. Allez voir ma femme. Non, ben n'allez pas la voir. Ça va ? Et Élie, on le voit à un moment donné, il est là, il va dans le désert, et puis on voit bien la démarche. Hein. Il se lève, il s'en va pour sauver sa vie, il y laisse son serviteur, il n'a pas envie qu'on lui parle, il n'a pas envie d'entendre rien du tout, il va s'isoler, il va s'asseoir sous un arbre, et tout ce qu'il dira, c'est fini, c'est assez. Il parle à Dieu, Éternel, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se couche, il s'endort. C'est étonnant, hein? Voilà. Et la parole de Dieu nous dévoile la vérité sur qui nous sommes. Pourtant, Élie, c'est un homme engagé, consacré. On ne peut pas lui reprocher ça. On ne peut pas dire d'Élie que c'est un tiède. On ne peut pas dire, hein? Et Élie, c'est un homme engagé qui va pourtant passer par ce qu'on appellerait une profonde dépression ou aujourd'hui un burn-out. Je ne sais pas la différence, je ne sais pas. C'est peut-être pour être plus poli, je ne sais pas. C'est politiquement correct, on dit aussi burn-out. Bon, enfin bref. Bon, en tout cas, cet homme va passer par un moment difficile, une profonde dépression. Il va demander la mort. Il est au bord du suicide, là. Au bord du suicide. Il est plus que découragé. Et puis, moi, ce qui m'impressionne, c'est que même dans ce cas-là, même sous un genêt, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu ne le rejette pas. Dieu, et béni soit Dieu que Dieu ne réponde pas à toutes nos prières. Hein ? Heureusement, hein ? Oui, non ? D'imaginer que Dieu réponde à toutes les prières, c'est assez, c'est fini, prends mon âme, plouf ! Eh bien, c'était fini. On retrouverait son cadavre, là, au pied du genêt. Mais béni soit Dieu que Dieu n'écoute pas toutes nos prières, parce que parfois, ce sont des prières qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas, et ce n'était pas une prière dans le plan de Dieu. Mais malgré, comment dire, cette opposition, il s'oppose à Dieu. Il arrête, c'est fini, j'en ai assez, je t'ai servi, mais maintenant, puis de toute façon, je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors, ils n'ont rien pu faire, moi je ne ferai pas mieux, c'est terminé, prends-moi. Dieu ne l'a pas écouté, mais Dieu, pour autant, ne l'a pas abandonné. Et regardez comment Dieu s'y prend, Dieu est bon quand même. Hein. Dieu lui envoie un ange cuistot, un gâteau cuit. Et alors, on va voir cette reconstruction. Alors, voyons d'abord... Avant de parler de ce processus de relèvement, lisons maintenant le chapitre 18 pour bien comprendre encore qui est Élie. 1 Roi 18 nous apprend qu'Élie va être cet homme qui va oser affronter sur le mont Carmel, vous connaissez le texte, hein, 450 prophètes de Baal. On y voit cet affrontement entre le mensonge et la vérité, et là on y voit un homme courageux. On lit ensemble, hein, à partir du verset 26, 1 Roi chapitre 18, verset 26. Le texte va apparaître à l'écran. 1 Roi chapitre 18, verset 26. Bon, je lis pour vous. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'Éternel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Vous voyez, on a l'impression que c'est, on ne parle pas du même homme. Élie, l'homme de Dieu, je vais même plus loin, l'homme de feu, l'homme de miracle, l'homme courageux qui va affronter tous ces prophètes de Baal et qui est là, pour le coup, c'est vrai, il est seul. Bon, alors ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que ces prophètes de Baal, ils ont tous les ingrédients de la religion. Ils ont le zèle, la croyance, l'engagement, la consécration. Il leur manque juste Dieu. Mais vous avez remarqué, ils font tout comme. On ne peut pas leur reprocher de ne pas être engagés, ils se font des incisions. Bon, je ne dis pas que ce qu'ils font, c'est bien. Mais il leur manque Dieu. Il leur manque, bien sûr, l'obéissance à Dieu. Et la foi, celle qui fonctionne, c'est celle qui est tournée vers Dieu. Ça, c'est la démonstration que la sincérité seule ne suffit pas. Parfois, on a l'impression qu'avec l'Évangile, c'est avec Dieu, il suffit que je sois sincère. Mais la sincérité ne sauvera jamais personne. C'est la foi en Jésus seul qui sauve. La foi en Jésus. Vous avez remarqué, il y a tous les ingrédients, sauf qu'il n'y a pas l'Holocauste, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la croix. Ils veulent s'approcher de Dieu, mais par leurs propres moyens. Et ça, c'est impossible. C'est une belle réflexion en attendant pour concernant l'Évangile. Alors par contre, regardons le sacrifice d'Élie. Lui, comment il s'y prend? Il y a plusieurs éléments. Il va rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. C'est-à-dire qu'il remet Dieu à la première place. Il remet Dieu à la première place. Deuxièmement, il prend 12 pierres. Ça, c'est la démonstration que Dieu n'est pas élitiste, mais que tous, nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. C'est clair pour tout le monde? Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Et il va construire cet autel avec ses 12 pierres. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Tous, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et qui sommes-nous, nous, enfants de Dieu? Des pécheurs graciés. Et n'oublions jamais ça. On n'est pas meilleur que les autres. Celui qui est meilleur au milieu de nous, c'est le Seigneur. Il n'y en a pas un qui est élevé au milieu de nous, si ce n'est Jésus. D'ailleurs, c'est lui le chef de l'Église. Même nous, serviteurs de Dieu, on n'a même pas la prétention de « Ouais, attendez, écoutez, nous, on est les meilleurs. » D'abord, des êtres humains. Serviteurs. D'ailleurs, mon serviteur, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, sinon on serait appelé, je sais pas, maître. Hein. Hein, Dieu nous aurait appelé, si Dieu avait voulu autrement, il aurait dit, bah, lui, il sera maître, maître pasteur, maître évangélique, mais serviteur. Ça calme. Ça calme. Serviteur de Dieu. Ça calme, c'est pas maître de Dieu, c'est serviteur. Vous voyez ? Bon, c'est Dieu qui est élevé. Il prend 12 pierres. Mais, comment dire ? C'est pas parce qu'on est appelé à vivre dans l'humilité qu'on est appelé à vivre dans l'humiliation. Hein. On a de la valeur aux yeux de Dieu. Troisièmement, il arrange le bois. Il coupe le taureau. Et ça, ça nous ramène à l'œuvre de Jésus à la croix. C'est important de réaliser que nous sommes ce que nous sommes uniquement par la grâce de Dieu. Et puis de ne pas oublier que la place que nous occupons, parfois je trouve qu'on est léger, nous les enfants de Dieu. Parce que parfois on occupe la place de notre chaise là, avec légèreté. Et on oublie que quelqu'un a payé. Quelqu'un a payé le prix fort. Vous savez, parfois on veut nous inviter quelque part, on paye le prix. Et puis on dit, ben mince, il a payé, je vais y aller, je vais quand même... Ben, imaginez le prix que Jésus a payé pour qu'on puisse s'asseoir. Réfléchissez à ça. Le prix que Jésus a payé pour que je puisse m'approcher de Dieu. Le prix que Jésus a payé pour que je sois membre de l'Église. Le prix que Jésus a payé. Vous voyez ? Alors il arrange le bois, il coupe le taureau. Il y a le quatrième élément, c'est l'eau qui nous parle du Saint-Esprit déversé en nous. Nous sommes des pentecôtistes. Et je peux m'approcher de Dieu avec foi et être renouvelé dans l'Esprit de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a que moi qui peux bloquer l'action de Dieu. Il suffit d'ouvrir mon cœur. Le cinquièmement, le chiffre 3 nous parle de la Trinité. Et puis enfin, Élie va confesser publiquement sa foi et puis le feu va tomber. Alors on voit là Élie l'homme de Dieu, Élie l'homme de feu rempli du Saint-Esprit. Et pourtant, on l'a lu tout à l'heure, chapitre 19, verset 4, si on peut revenir là. Il alla dans le désert après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, il demande la mort en disant « c'est assez, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Alors je me suis posé la question, mais comment se fait-il qu'Élie soit passé de la montagne à la vallée en si peu de temps ? Comment se fait-il qu'Élie soit passé de cet homme de Dieu, homme courageux ? Et comment se fait-il que maintenant, là, il soit dans la noyée, dans la dépression, au bord du suicide, sous un genêt ? Disant, c'est fini, j'arrête. Alors j'ai noté quelques éléments qui sont intéressants à noter pour chacun d'entre nous. Pourquoi cette déprime ? D'abord, il y a un élément qui apparaît dans ce texte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je crois qu'Élie a... Alors, avec tout le respect que je dois à Élie, hein, c'est un homme de Dieu, mais comprenez bien ce que je veux dire. Hein. Mais je crois qu'Élie a commis une première faute en se moquant des prophètes de Baal. Je crois qu'on n'a pas à se moquer. Il me semble là qu'il a péché par excès d'arrogance. C'est un point. Et parfois, nous, enfants de Dieu, il faut faire attention à ne pas devenir arrogant. Dieu nous bénit, mais ce n'est pas parce que Dieu nous bénit qu'on est les meilleurs. Ce n'est pas parce qu'un jour je prie pour quelqu'un, j'exerce une parole de connaissance, que tout ce que je dis, c'est parole d'évangile. Dieu m'a béni une fois. Dieu s'est servi de moi une fois. Je bénis Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que je dis, c'est pas parce que je prophétise, vous voyez, que j'exerce le don de prophétie, par exemple, dans l'Église, que je suis, voilà, prophète 24 sur 24. Faire attention à l'arrogance. Et je trouve qu'Élie, à un moment donné, vous avez remarqué, il se moque, ouais, mais votre Dieu, il est en voyage, il dort. Et... Bon, premier point. Le deuxième point qui a amené Élie à cette dépression, c'est qu'il combat seul. Parce qu'il se croit seul. Mais si vous lisez tout le texte, vous apercevrez qu'il y a au milieu du peuple d'Israël, Dieu le dira à Élie, des enfants de Dieu qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et Élie l'oublie. Élie a l'impression qu'il est tout seul. D'ailleurs, il va le dire deux fois à Dieu, quand Dieu lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Et vous avez remarqué la réponse d'Élie ?« Mais Seigneur, moi j'ai déployé tout mon zèle. » Et puis il explique à Dieu « Mais je suis tout seul. Je suis tout seul à me battre. » Mais Élie, il est tout seul parce qu'il se croit tout seul. Mes frères et sœurs, c'est un danger d'oublier la communion fraternelle. Alors c'est étonnant avec Élie parce qu'il a une relation verticale avec Dieu. Mais ce qu'il lui manque, et parfois au milieu de nous, c'est peut-être un point peut-être qu'on n'évoque pas assez, je ne sais pas, mais c'est parfois la relation horizontale. Il arrive dans certaines situations, ne me demandez pas pourquoi, demandez-le à Dieu. Il m'arrive dans certaines situations, et certainement j'imagine pour Alain c'est la même chose, de voir des enfants de Dieu. Moi ça m'est arrivé, et de dire à des enfants de Dieu qui étaient dans certaines situations, ça ne vous suffit pas une relation avec Dieu, mais vous avez besoin d'aide de l'Église. De frères, de sœurs qui vont vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a parfois... Dieu délivre instantanément, c'est clair, c'est net, hein, les chaînes tombent, ma vie est transformée, un contact avec Dieu, ça suffit. Et puis il y a d'autres fois où j'ai besoin, d'ailleurs dans le domaine de la foi, j'ai besoin de l'Église. C'est Jésus qui a institué l'Église, c'est pas les hommes, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est Jésus qui a institué l'Église. Après tout, on aurait très bien pu vivre notre foi tout seul chez soi. Mais c'est pas dans le plan de Dieu. Hein, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Bon, et là, Élie, il combat, on peut pas dire, on peut pas lui reprocher ça, il combat. Mais le tort qu'il a, c'est de combattre tout seul. Mais il combat tout seul parce qu'il cherche pas les autres. Et il est tout seul. Et voyez-vous, à un moment donné, quand on combat tout seul, c'est l'épuisement qui nous gagne. Et Élie, il est épuisé. Il n'en peut plus. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul. Il oublie. Il a oublié au fond, Élie, qu'il est d'abord un être humain et qu'il a besoin lui aussi de se ressourcer. Il a besoin lui aussi de recharger ses batteries. Il a besoin de la grâce de Dieu. Un autre point, c'est que malgré le miracle qu'il va expérimenter, Élie, et je crois que c'est un syndrome aussi parfois au milieu de nous, entre le moment où le feu de Dieu tombe et puis le moment où Jézabel va dire qu'au fond, que Jézabel, elle n'a pas changé, Élie va oublier le feu et ne va retenir que l'échec. Il vit dans l'échec. Et quel échec il est en train de vivre? Au fond, Élie s'aperçoit, le feu est tombé, il y a eu une belle démonstration, mais rien n'a changé. Jézabel, elle est toujours pénible, Acab, il n'a toujours rien compris, et voilà. Et il n'y a rien qui a changé. Et voyez, quand il y a cette réaction de Jézabel, au fond, souvent je me suis posé la question, était-ce de la peur? Alors il y a de la peur, mais je pense aussi qu'il y avait comme une forme de découragement dans le cœur de... Je pense que Élisée devait se dire, quand le feu va tomber, tout le monde sera convaincu que c'est Dieu qui est l'Éternel. Tout le monde, même Jézabel, elle va être confondue. Et Jézabel, elle n'a pas bougé d'un poil. Rien du tout. Elle est restée la même. Et voyez-vous, ce qui est terrible, c'est que Élisée, malgré le miracle qu'il a vécu, Élie, il vit dans l'échec. Et j'ai remarqué que parfois, nous, enfants de Dieu, on se laisse, absorber par des mensonges diaboliques. Et on en oublie la bénédiction de Dieu. Et on se laisse aveugler par des mensonges du diable qui veulent nous écraser. Et il est dans cette posture. Il se laisse écraser, il se laisse aveugler. Il en oublie qu'au chapitre 18, quand même, Dieu agit, même s'il était tout seul après tout. Dieu agit au travers d'Élie. Dieu a répandu le feu. Dieu a répondu à la prière pour le coup. Vous avez vu ça? Envoie le feu, il est tombé. Bon, mais moi, je demande que ça. Toutes les réunions, je demande ça. Seigneur, envoie le feu. Touche ton cœur. Que le malade soit guéri, que le perdu soit sauvé, que le pécheur se repente. Vous voyez? Et puis là, le feu tombe et lui, il ne retient que l'échec. Et parfois, on vit dans les échecs, on laisse les échecs gagner de la place, et puis c'est les échecs qui nous écrasent. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu, malgré tout cela, ne l'abandonne pas. Dieu ne l'abandonne pas. Et donc, Dieu va envoyer un ange avec un gâteau sur une pierre chauffée, une cruche d'eau, mange, bois. C'est une belle étude biblique pour nous, ça. Un beau conseil, hein. Comment s'en sortir? Eh bien, mange. La parole de Dieu. Là aussi, il faut être honnête. Parfois, si on ne lit pas la parole de Dieu, il ne faut pas s'étonner qu'on soit affaibli non plus. C'est le bon sens, hein? Mais Dieu lui dit, à la phalange plutôt, mange, bois. Bois aussi de l'Esprit de Dieu. Renouvelle-toi, ça me fait penser à la Samaritaine qui avait besoin de l'eau vive. Voilà, c'est de Jésus dont nous avons besoin. Et donc, avec ces nouvelles forces, Élie, imaginez, hein, manger... de boire, et Élie va aller à la montagne de Dieu 40 jours, 40 nuits, il va marcher. Quand même, ça lui a donné de la force, là, pour le coup. Là, il a de la force, hein, c'est même surnaturel. Et Élie va à la montagne de Dieu. Et puis je termine avec cette pensée. C'est comment Dieu va se révéler. Élie, c'est, on le voit, hein, c'est un homme d'action, homme de miracle, homme de feu, il aime ça. Bon, et c'est bien. Et voilà que Dieu va lui enseigner quelque chose. Dieu va envoyer le vent fort et violent, mais Dieu n'est pas là. Pourtant, c'est une leçon. Et parfois, nous, enfants de Dieu, on attend que ça bouge de partout, que ça tremble, que, je sais pas, qu'il faudrait que ça explose de partout, que, je sais pas, que la moquette, elle s'arrache, que, je sais pas, que les chaises, elles fondent, que bon, voilà. Alors, mais Dieu n'est pas là. Bon. Après, il y a un tremblement de terre. Oh, tremblement de terre, c'est vrai, tout est chamboulé, c'est bon. Dieu n'est pas là. Bon. Après, il y a le feu. Moi, le premier, j'aime le feu. Enfin, le feu de Dieu, hein. J'aime ça. Et on voit Élie, c'est pareil, il aime ça, le feu, c'est un homme de feu, lui. Envoie le feu. Et Dieu n'est pas dans le feu. Et Dieu va se révéler dans un murmure doux et léger. Et au fond, c'est de ça dont Élie avait le plus besoin. C'est de cette intimité avec Dieu. De redécouvrir, pas seulement ce Dieu-là qui est capable d'accomplir des miracles extraordinaires, et on croit, parce que parfois Dieu est dans le tremblement de terre, hein. Parfois Dieu est dans le feu, hein. Parfois Dieu est dans les choses, je veux dire, qui secouent, on le croit ça. Mais souvent aussi, c'est dans ce murmure doux et léger que Dieu veut se manifester. On l'a entendu encore ce matin dans un don spirituel, il faut être attentif à ce que Dieu nous dit. Et souvent, vous avez remarqué que Dieu ne parle pas fort. Hein, Dieu ne parle pas fort. On aimerait, nous, bien des fois, que ce soit illuminé en lettres de feu, même dans le ciel. Quelle est ta volonté? Et vous remarquerez que la réalité, c'est que souvent, Dieu parle dans le secret. Et qu'il faut quasiment chercher la voix de Dieu pour l'entendre. Et que tant qu'on n'aura pas fait taire tout le reste, on ne sera pas capable d'entendre la voix de Dieu. Vous voyez? Et il a fallu qu'Élie fasse taire tout le reste. Et puis qu'il redécouvre ce face-à-face avec Dieu, et souvent même dans l'œuvre de Dieu. Alors on se bat, on combat, on lutte, et puis on se fatigue, parce qu'on oublie que c'est cette intimité de Dieu dont j'ai besoin. C'est dans ce murmure doux et léger, la vue horizontale, parfois ce qui nous environne nous écrase, nous aveugle. Et lui, il avait besoin d'être relevé par l'Esprit de Dieu. Et là, dans la caverne. Alors j'aime bien la caverne, hein, parce que vous remarquerez que dans une caverne, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de témoin. Cela seul, avec Dieu. Et c'est là, dans ce face-à-face. Vous savez de quoi Élie avait besoin? Pas d'une parole extraordinaire de Dieu. Élie avait simplement besoin que la main de Dieu se pose sur son épaule. Je suis là. Et de quoi nous avons besoin, frères et sœurs? Ce n'est pas de grand miracle. Comprenez bien, on aspire au miracle de Dieu. Moi, le premier, j'y aspire, je suis un évangéliste, hein, j'aspire au miracle de Dieu, des guérisons, des délivrances. Et on en voit, et on en verra. Mais moi, enfant de Dieu, j'ai besoin que la main du bon berger se pose sur mon épaule pour me renouveler. Regardez ce que Jésus a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà. Besoin simplement de savoir que Dieu ne m'a pas abandonné. Besoin de savoir que Jésus est avec moi. Besoin de savoir que je peux m'approcher de lui encore. Regardez ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà. Et c'est dans ce murmure doux et léger. Voilà. En plus, j'ai noté cette expression, un murmure doux et léger. Comme si le murmure pouvait être dur et lourd. Imaginez, déjà un murmure, c'est pas lourd. Mais un murmure doux. Plus léger, c'est le murmure du murmure, quoi. Vous voyez, c'est chaud, là. C'est entre le silence et le murmure, vous voyez. Vous avez entre les deux, vous avez le murmure doux et léger. Vous voyez, ouais, c'est un bel enseignement pour nous. Un murmure doux et léger. Parfois, nous, on veut être secoué de la tête aux pieds. Il faut quasiment que Dieu me prenne par les pieds, me renverse, me secoue, là. Et mais non. Dieu, ce matin, veut poser sa main sur mon épaule, me rassurer. Nous déposer au creux de l'oreille, au creux de l'oreille. Je suis avec toi. Je ne t'ai pas oublié. Et puis si tu ouvres les yeux dans la bonne direction, tu verras même un beau gâteau. Cuit, à point. Et tu verras que je ne t'ai pas oublié. Et c'est cela qu'on a besoin de redécouvrir. Comment se relever? Eh bien, en s'arrêtant. Et puis en cherchant cette voix de Dieu, la voix du bon berger. D'imaginer, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est cette parole que j'ai besoin d'entendre. Moi, j'ai besoin d'entendre la voix du bon berger. J'ai besoin de sentir sa main qui se pose sur mon épaule, parce que je suis comme vous, je suis fragile, je suis faible, j'ai des difficultés, j'ai des limites. Alors j'ai besoin de sentir cette douce main-là qui se pose sur mon épaule, qui me rassure, qui me dit, t'inquiète, je suis là. Je ne sais pas comment Dieu va faire pour l'avenir, mais le principal, c'est que Dieu soit là.
Amen.